Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste. Heureux d'être avec vous pour un autre épisode de cette série où je vous propose de redécouvrir la Bible à partir de ses récits les plus insolites. Avez-vous déjà transgressé un interdit? Bon, je suppose que oui, parce que tout le monde a déjà fait ça à un moment ou à un autre de sa vie. Mais aujourd'hui, on va voir les conséquences de la transgression de l'interdit de toucher à l'Arche de l'Alliance. Puis on verra que malgré la distance entre ce texte et nous, c'est quand même un texte qui est dans une culture très différente, il y a quand même plusieurs liens à faire avec nos vies d'aujourd'hui. Les auditeurs habituels le savent, je commence toujours avec un temps d'interaction à partir de vos commentaires. Alors, saviez-vous que vous avez accès aux épisodes passés de cette série sur Internet? Si jamais ça vous intéresse, la plupart se retrouvent sur le site d'Interbible, c'est au www.interbible.org. Les émissions y sont placées avec quelques semaines de retard sur la diffusion radio. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir sur une émission qui a été placée sur Interbible cette semaine et qui a fait réagir beaucoup de personnes. Alors, il s'agit de l'épisode sur les différentes traditions entourant la mort de Judas. Alors, si vous vous en rappelez, on avait vu que les évangiles présentaient la mort de Judas comme un suicide par pendaison, mais que les Actes des apôtres expliquaient d'une façon différente qu'il est mort de façon accidentelle, qu'il est tombé tête première, puis bon, ses entrailles vont éclater et se répandre partout. Puis enfin, on a vu une autre tradition qui date des premiers siècles de l'Église, des pères de l'Église, qui mentionne qu'il serait mort dû à une obésité extrême. Alors, ceci a engendré plusieurs courriels. Je vous en lis deux. Le premier vient de Richard. Je viens d'écouter votre balado sur Judas et je vous en remercie. Je désire attirer votre attention sur l'explication du frère Roger Poudrier, franciscain, qui voit dans la pendaison de Judas le désir de celui-ci de faire justice en se donnant la mort, en appliquant la loi du talion, vie pour vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, bon. Ma façon de réagir, c'est que oui, c'est une interprétation, mais pour savoir si c'est une interprétation qui est juste, moi, je pense qu'il faudrait voir s'il y a d'autres cas dans la Bible où on peut voir ça, où il y a un suicide qui est interprété comme une façon de mettre en application la loi du talion. Personnellement, je ne suis pas sûr qu'on réussirait à le trouver. Parce que, bon, je pense qu'au lieu d'être l'application de la loi du talion, c'est plus un remords personnel. Je pense que c'est pas quelque chose au niveau législatif, mais plutôt quelque chose que Judas lui-même, il s'aperçoit qu'il a commis une grave erreur, et c'est pour ça qu'il va aller se pendre, si on prend l'interprétation des évangiles. Alors, bon, en tout cas, tout ce qu'on peut voir de ça, c'est qu'il semble avoir dans le geste du suicide quelque chose qui indique un remords de sa part. Bon. Et c'est aussi ce qui va venir dans le deuxième courriel qui provient de François. Je vous le lis. J'ai 70 ans cette année. Quand j'étais adolescent, j'ai suivi l'enseignement du père Monnier, jésuite, un des inspirateurs du Concile Vatican II. Il nous disait de Judas que sa trahison était chose horrible et que si, avant de mourir, il a eu le petit des regrets devant Dieu, étant donné son amour infini, il a pu être pardonné. C'est le mystère de Dieu. Alors, François, moi aussi, j'ai déjà entendu cette façon de présenter le sort de Judas, qui, on ne sait pas, peut-être à la fin de sa vie, dans le dernier instant, aurait demandé pardon et aurait peut-être été sauvé. Bon, en effet, on peut se poser la question, hein, c'est quoi la limite de l'amour de Dieu? Honnêtement, je pense que, en bout de ligne, ce n'est pas à nous de décider qui va être sauvé, qui ne sera pas. C'est Dieu qui s'occupe de ça. D'ailleurs, on peut voir aussi dans l'inverse, hein, des fois, on entend des personnes qui condamnent d'autres personnes en disant « Ce type de personne-là, ceux qui commettent ces actes-là, cette personne-ci en particulier, s'en va en enfer, c'est pas la bonne façon de faire, etc. » Moi, je suis contre ça. Je pense que on peut essayer de faire de notre mieux, on peut essayer de dire les différentes lignes de conduite, mais qui sait qui va aller en enfer, qui va aller au paradis? Ce n'est pas à nous de s'occuper de ça, c'est Dieu. Donc, peut-être que votre bon père jésuite a raison en disant que Judas pourrait peut-être être sauvé, mais en fin du compte, on ne le sait pas. Merci à Richard, merci à François et tous ceux et celles qui nous ont contactés. N'hésitez pas à nous écrire. Notre adresse, c'est auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. On prend le temps à chaque fois de vous lire et de vous répondre. Alors, venons-en au sujet du jour, un récit qu'on pourrait intituler « Touche pas à mon Arche de l'Alliance ». Ici Sébastien Daune. Vous écoutez Récits insolites de la Bible. Notre récit du jour parle de l'Arche de l'Alliance. Mais savez-vous de quoi s'agit-il? Dans la Bible, l'Arche de l'Alliance, c'est le coffre qui contient les tables de la loi ou les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Ce coffre, la Bible nous le décrit, il est confectionné en bois et recouvert d'or. Le couvercle est orné de deux anges protecteurs qu'on appelle les chérubins, et l'arche est considérée comme le trône et même la résidence de Yahvé, le Dieu d'Israël, sur terre. Alors, c'est son lieu, on sait qu'il est là, sur l'arche. Jusqu'à la construction du premier temple de Salomon, alors il sera dans cette arche-là. De la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée des Israélites dans le pays de Canaan, l'arche va être portée par des hommes de la tribu de Lévi. On les appelle les Lévites. C'est eux qui vont devenir les prêtres au temple un peu plus tard, lorsque le temple sera bâti. Alors, cette arche-là est mobile parce que le temple n'est pas encore bâti, va passer d'une tente à l'autre, puis elle est amenée au terrain lorsque le peuple ressent particulièrement le besoin de s'assurer de la présence du Seigneur, parce que c'est comme le symbole de la présence du Seigneur. Alors, entre autres, pour la traversée du Jourdain, sous la direction de Josué, quand ils vont entrer en terre promise, ils vont avoir l'arche avec eux. Ou lors de la conquête de Jéricho, on va voir l'arche qui va se promener autour de la ville. Alors, après l'installation en terre promise, l'arche va être encore une fois transportée à divers endroits, selon les directives des chefs du peuple. Un peu plus tard, lorsque David va devenir roi, il va décider de transférer l'arche à Jérusalem, puisque c'est là qu'il va fonder la capitale de son royaume. Et lors de ce transfert, c'est là que ça devient intéressant, il va avoir un accident qui va se produire. On va écouter le récit de cet accident-là. C'est dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 6, les versets 3 à 10.
On chargea l'arche de Dieu sur un chariot neuf et on l'emporta de la maison d'Avinadav, située sur la colline. Uzza et Ahio, les fils d'Avinadav, conduisaient le chariot neuf. On l'amena de la maison d'Avinadav, qui est sur la colline, avec l'arche de Dieu, et Ahio marchait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël s'ébattaient devant le Seigneur, au son de tous les instruments de cyprès, des cithares, des harpes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Ils arrivèrent à l'aire de Nakhon. Uzza fit un geste en direction de l'arche de Dieu et il la saisit car les bœufs allaient la renverser. La colère du Seigneur s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa là pour cette insolence. Il mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut bouleversé parce que le Seigneur avait ouvert une brèche en se ruant sur Uzza. Aujourd'hui encore, l'endroit s'appelle la brèche de Uzza. David eut peur du Seigneur en ce jour-là et il dit « Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle venir chez moi ?» David renonça donc à transférer l'arche du Seigneur chez lui, dans la cité de David, et il la remisa dans la maison de Obed-Édom le Guittite.
Uzza est mort pour avoir empêché l'arche de l'Alliance de tomber. Lui qui voulait seulement prévenir une catastrophe, il est rendu qu'il est exécuté par Dieu. C'est quand même particulier, il essayait de faire de son mieux, il essayait d'aider, et non, il se retrouve mort. Comment ça se fait? Bon, il va y avoir toutes sortes de commentaires. Les commentateurs rabbiniques et les versets du livre des Chroniques au chapitre 15, versets 12 à 15, alors dans la Bible, on va reprendre ce texte-là, vont en parler en disant que dans ce geste-là, il y a une violation de la règle qui exige que ce soit des Lévites qui portent l'arche avec la barre sur leurs épaules. Ça, on trouve ça dans le livre des Nombres et dans le livre de l'Exode. Alors, c'est une règle, il faut porter l'arche par les barres sur les épaules de Lévite. En fait, l'erreur d'Uzza, c'est d'avoir oublié que le contact direct ou indirect avec Dieu peut comporter un danger de mort. Ça, c'est quelque chose dont on parle à quelques reprises dans la Bible. Il y a plusieurs textes qui vont rappeler ça. On craint de mourir si on voyait Dieu. Ça, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais entre autres, il y a quelques passages dans le livre de l'Exode, dans le livre des Juges, même dans le livre d'Ésaïe, des personnages qui disent « Non, si on voit Dieu, on va mourir. » Même si on l'entendait dans le livre de l'Exode, dans le livre du Deutéronome, si on entend Dieu, on peut mourir. Et aussi si on touchait à son sanctuaire, dans le livre des Nombres. Alors, le récit de la capture de l'arche des Philistins dans le livre de Samuel va montrer qu'il y a plusieurs hommes qui ont été frappés par le Seigneur parce qu'ils avaient simplement regardé l'arche de l'Alliance. C'est encore plus frappant. Ça, c'est des ennemis d'Israël qui viennent de gagner la guerre et veulent s'emparer du butin. Et juste en regardant l'arche de l'Alliance, ils meurent. Alors, on comprend alors l'attitude de David qui va finir par avoir peur de l'arche dans sa maison. Alors, c'est pour ça qu'il voulait pas avoir l'arche dans sa maison, elle se promenait d'une tente à l'autre. La crainte du Seigneur apparaît comme un sentiment normal dans la Bible, parce que la puissance de Dieu surpasse de beaucoup celle des êtres humains. Les êtres humains sont pas rien, mais sont beaucoup plus petits que Dieu, et Dieu peut, en tout cas dans l'Ancien Testament, Dieu va réaliser toutes sortes de prodiges qui vont parfois laisser les humains dans une certaine peur, en tout cas dans une crainte. Ceux-ci peuvent reconnaître qu'ils sont fragiles, qu'ils sont petits, qu'ils sont mortels, et ça engendre une espèce de respect. Ils se tournent vers Dieu avec des sentiments d'adoration, d'émerveillement, surtout de respect. Et dans la relation avec Dieu, la crainte doit être équilibrée par la confiance. D'ailleurs, à maintes reprises, quand Dieu se manifeste à une personne, il va l'inviter à ne pas craindre. Donc, il y a une espèce de oui, la crainte du Seigneur existe, on en parle dans la Bible, mais c'est toujours une crainte qui est plutôt du respect aussi. Alors, ceci dit, est-ce qu'on peut tirer une réflexion pour nous aujourd'hui de ce récit-là qui parle d'un homme qui est foudroyé en touchant à l'Arche de l'Alliance? C'est sûr que l'Arche de l'Alliance n'existe plus aujourd'hui, donc on ne peut plus y toucher, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui peut avoir rapport avec notre vie? Moi, je crois que oui. On va y penser et on va revenir sur cette question du respect de Dieu aujourd'hui dans notre culture. Vous êtes à l'écoute des récits insolites de la Bible avec Sébastien Daune. Aujourd'hui, je vous ai proposé le récit qui illustrait la mort d'Ouza, qui voulait essayer d'aider l'Arche de l'Alliance qui est en train de tomber, mais en y touchant, il a été foudroyé de mort parce qu'il n'a pas respecté cette règle qui voulait qu'on n'a pas le droit de toucher à l'Arche de l'Alliance avec nos mains comme ça. Alors, même s'il faisait ça de bonne foi, il a été foudroyé sur place. On a vu que ce récit-là a été transmis surtout pour rappeler le respect à l'égard du Seigneur et de tout ce qui est sacré. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce qui est sacré dans la Bible. Bon, on peut sans doute y trouver inspiration pour nous encore aujourd'hui. Le manque de respect. Est-ce que ce n'est pas quelque chose dont on déplore souvent dans les rapports humains entre nous? Entre autres, le manque de respect envers Dieu, envers le religieux, semble encore plus grand. Surtout ici au Québec, on peut très bien illustrer ce problème-là par les sacres. Hein. J'ai pas besoin de vous les dire comme ça, mais vous les connaissez. Tous ces sacres qui sont tous des mots d'église qu'on transforme pour signifier notre douleur quand un marteau frappe notre pouce, mais c'est assez particulier. On est un des seuls endroits sur la planète qui vont avoir un vocabulaire aussi religieux pour évoquer ces sentiments-là. Étrangement, une bonne partie des personnes qui vont employer ces sacres-là ne connaissent même pas l'origine de ceux-ci. Moi, je travaille dans une école secondaire et mes élèves n'ont aucune idée de la signification religieuse des sacres qu'ils emploient pourtant tous les jours. Honnêtement, je ne crois pas que Dieu va venir foudroyer les Québécois comme il l'avait fait à Ouza, en tout cas, j'espère pas. Mais je pense qu'il pourrait être souhaitable de cultiver ici le respect envers les autres et envers Dieu. Moi, je pense que c'est ça la pointe de ce récit-là, qu'il faut respecter ce qui est sacré. Et entre autres, peut-être qu'on devrait essayer de le faire un peu plus avec notre langage. Bon, ça m'intéresse de vous donner quelques exemples de respect. Le respect à l'égard de Dieu et du respect à l'égard des autres, parce que je crois que les deux sont intimement liés. Pour moi, le plus bel exemple de ce respect-là, c'est une ancienne pratique des moines bénédictins. Leur fondateur, Saint Benoît, incitait les moines à pratiquer une grande hospitalité envers tous ceux qui venaient au monastère. D'ailleurs, la règle de Saint Benoît va affirmer « On recevra, comme le Christ lui-même, tous les autres qui surviendront, car lui-même doit dire un jour « J'ai demandé l'hospitalité et vous m'avez reçu. » Au Québec, les hommes qui sont accueillis au monastère de Saint-Benoît-du-Lac pour une retraite vont partager le repas avec les moines. Et dans le rituel d'accueil, l'abbé salue les retraitants et va leur laver les mains avant de les inviter à passer au réfectoire. Je ne sais pas si vous avez vécu cette expérience, mais moi, oui. Et j'ai vécu ça comme une pratique très simple, mais qui voulait exprimer le respect pour la personne qui est reçue pour elle-même, mais aussi parce qu'elle porte quelque chose de divin en elle, et à quelque part, comme le dit la règle de Saint-Benoît, ben, le Christ est avec elle, et les moines vont essayer de s'occuper de cette personne comme si c'était le Christ. Alors, dans ce petit exemple-là, moi, je vois bien que le respect des autres va de pair avec le respect de Dieu, parce qu'à quelque part, on a quelque chose de divin en chacun de nous. Bon, une autre histoire que j'ai entendue illustre bien cette vérité, et ça me tente de vous la raconter, je la trouve très intéressante. Alors, on ouvre notre imagination. Il y avait un monastère où régnait la colère et la discorde. On y retrouvait de moins en moins de moines, alors il y en avait de moins en moins, ça allait mal, et ceux qui restaient là n'étaient plus vraiment heureux, ils se disputaient tout le temps. Jusqu'au jour où le père abbé va convoquer tous les frères en chapitre pour leur dire qu'ils venaient de recevoir une révélation de Dieu. Et la révélation était la suivante, le Christ était revenu sur terre et il se trouvait parmi eux au monastère. Alors, les frères étaient tout étonnés de cette révélation-là. Ils se mirent à chercher lequel d'entre eux pouvait bien être le Christ et se demandaient, est-ce que c'est lui? Qui est-ce qui est ce Christ qui est de retour parmi nous? Puis tout d'un coup, tranquillement, ils vont commencer alors à faire attention à l'un et chacun. Et lentement, la paix va revenir au monastère. Alors, chaque moine rivalisait de respect, d'attention, de charité envers les autres parce qu'ils se demandaient si ce n'était pas le Christ qui était là. Et en vérité, le Christ était présent dans ce monastère qui accueillit de plus en plus de moines. Alors, la meilleure façon de résumer le lien qui existe entre le respect de Dieu et le respect des autres, bien moi je pense que ça se retrouve dans la lettre de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean. C'est au chapitre 4, le verset 20. Je vais vous la lire tranquillement parce que je pense qu'il y a une sagesse très profonde. Encore une fois, ça va nous montrer le respect de Dieu et des autres qui vont ensemble. Et je pense que ça peut nous inspirer. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, eh bien c'est un menteur. En effet, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Enfin, terminons sur une note un peu plus légère. Vous vous rappelez peut-être un film qui était centré autour de l'Arche de l'Alliance. Vous le savez pas, bon, je vous rafraîchis la mémoire, c'est un film de Steven Spielberg avec son fameux héros Indiana Jones. Alors, c'était Les Aventuriers de l'Arche perdue qui date déjà depuis de 1981. Mais dans ce film, vous noterez que l'Arche a des propriétés dangereuses. Étonnamment, le film va reprendre un petit peu ce qu'on a vu dans le récit de la Bible. Mais on ne s'en tient pas vraiment au texte biblique parce que dans ce film-là, il retrouve l'Arche perdue, mais bon... Quand on regarde au niveau historique tout ça, l'arche, il semblerait qu'elle ait résidé de nombreuses années dans le temple de Salomon, mais lorsque ce temple a été pillé et détruit, entre autres par les Babyloniens, ben on a complètement perdu la trace de l'arche. Alors, elle a probablement été perdue, pillée, détruite et n'existe plus aujourd'hui. Alors, bon, on perd la trace de l'arche de l'Alliance après l'exil. Le film de Spielberg va inventer la redécouverte de cet objet mystérieux. Mais bon, je vous le conseille, c'est un excellent film à regarder. C'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez fait des découvertes avec ce récit autour de l'Arche de l'Alliance. Pour aller plus loin, je vous suggère de vous procurer le livre intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible » que j'ai écrit aux éditions Novalis et Mediapol. Si vous avez des questions, des commentaires, ben, n'hésitez pas à nous écrire. Comme vous le savez, on prend toujours un temps au début de chaque émission pour vos réactions. Alors, ça fait un peu d'interaction entre nous. Entre autres, vous pouvez me rejoindre à une adresse courriel très simple, c'est auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com. Vous pouvez aussi aller sur le site web de Radio Ville-Marie et trouver une façon de nous rejoindre de cette façon-là, ou par courrier régulier ou téléphone. Savez-vous combien de femmes avait le roi Salomon? Je vous donne pas tout de suite la réponse, parce qu'on va garder ça pour la semaine prochaine, mais bon, il y en a beaucoup plus que moi, il y en a même beaucoup plus que 100. Alors, bon, la prochaine fois, on verra ça. On va rentrer dans le monde de la polygamie biblique. Merci à chacun, chacune, pour votre écoute attentive. Merci à Marie Laferrière pour sa lecture biblique. Et merci à Joe Pacheco à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À la prochaine.